Jean-Pierre Mignard, bonjour.
Bonjour.
Dans les leçons du pouvoir, François Hollande fait le bilan de son quinquennat. Que pensez-vous de son bilan sur l'Afrique ?
C'est un bilan qui a été imposé par les événements, puisque très rapidement, la question de la sauvegarde de l'intégrité du Mali s'est posée avec les djihadistes. Et donc, il a pris une décision extrêmement importante pour l'avenir. Donc, ça a été, je veux dire, sa grande œuvre.
Alors justement, dans son livre, il semble qu'il consacre plusieurs pages à sa visite dans Tombouctou libéré. C'était en février 2013. Comment expliquez-vous cette fameuse phrase « C'est la journée la plus importante de ma vie politique » ?
Sans doute parce que son activité jusqu'alors avait été celle d'un parlementaire, celle d'un chef d'un grand parti, mais jamais confronté à la question militaire, c'est-à-dire du choix le plus important sans doute pour un chef d'État, qui est celui de la paix ou de la guerre.
Dans cette phrase, certains y ont vu une petite revanche sur tous ceux qui, même au Parti Socialiste, le traitaient de fraise des bois, et donc peut-être l'aveu d'une blessure intime.
Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de la résistance, donc il n'est pas blessé plus que cela, n'exagérons pas quand même.
Le Mali, la Centrafrique, est-ce que François Hollande n'a pas laissé les militaires prendre le pouvoir dans la conduite de la politique africaine de la France ?
Ah, il est certain que dès lors que l'on fait la guerre, c'est souvent la carte militaire qui s'impose par rapport à la carte politique, oui. C'est le risque toujours dans ce type de situation. Il y en a un deuxième d'ailleurs, qui est que nous avons, la France a des alliés dans cette région, c'est le G5, et qu'elle peut payer un prix anormalement important à ses alliés pour son engagement dans la région.
Pour essayer de chasser les djihadistes du Nord Mali, beaucoup ont reproché à François Hollande d'avoir fait alliance avec le régime autoritaire du tchadien Idriss Déby. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement la question du Tchad, où la question récurrente de la démocratie et des droits se pose. Mais il y a aussi la question de la Mauritanie, par exemple, qui est un État allié et où aujourd'hui, près de 13 sénateurs sont poursuivis, mis en examen. Un est détenu, des journalistes, des responsables syndicaux, des responsables patronaux qui se sont opposés au président mauritanien. Alors, quelquefois, il faut dire à son allié des choses désagréables et lui dire notamment, comme en Mauritanie par exemple, si le pays est divisé, alors il y aura un problème parce qu'il sera plus fragile et ce sera un allié fragile. Donc il faut savoir dire les choses. Et là, c'est un problème qui s'est posé pour le président Hollande, un problème qui se posera pour le président Macron, c'est comment la France, qui a besoin de ses alliés, est en même temps amenée à leur dire que la question des droits et des libertés publiques et du fonctionnement des institutions, ça ne va pas.
Idriss Déby, vous le connaissez bien, dans les années 90, oui. Vous avez été avocat conseil de l'État tchadien lors de ces négociations avec les compagnies pétrolières. 20 ans après, est-ce toujours le même Idriss Déby ?
Je pense que la question qui se pose pour les dirigeants africains, quelle qu'a été leur qualité, c'est le temps, l'usure dans le pouvoir. Et effectivement, je crois qu'il faut laisser le peuple libre de son choix, avec des candidats qui aient le droit de se présenter librement, avec des moyens égaux. Je crois qu'il faut des pays de droit en Afrique et non des tyrans, même si ce sont des tyrans éclairés. Mais un tyran éclairé, au bout d'un moment, il perd la vue, donc c'est plus du tout un terrain éclairé. Et la France, alliée de ses États, doit avec fermeté dire, écoutez, nous avons besoin de votre force, et nous avons besoin pour votre force de la liberté de vos peuples. Et un bon exemple, ce serait qu'en Mauritanie, on libère le sénateur Oudgada. Ça renforcerait l'alliance. Voilà, c'était ça le challenge pour François Hollande, c'est aussi le challenge pour Emmanuel Macron. Hein.
Il y a un an, avant son départ de l'Élysée, François Hollande a été sollicité par plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, qui, au nom de la solidarité socialiste, lui ont demandé de relayer leur demande de libération de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je pense que la solidarité socialiste, c'est très bien, mais si un dirigeant, fut-il membre de l'International Socialiste, ait commis des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, et quand même des accusations graves, puisque ce sont des accusations de crimes contre l'humanité, eh bien dans ces conditions, il n'y a pas de solidarité socialiste qui tienne. Donc cette demande n'avait aucune valeur, et d'ailleurs François Hollande a eu tout à fait raison de ne pas souhaiter y répondre.
Avec Jean-Paul Benoît, vous êtes l'avocat de l'État ivoirien dans le procès Laurent Gbagbo, justement, devant la Cour pénale internationale. Et au train où vont les choses, le verdict de ce procès ne sera pas rendu avant plusieurs années. Est-ce qu'il est normal, Maître Mignard ?
Pas plusieurs années, mais enfin, on va rentrer maintenant, effectivement, dans la période d'audition des témoins de la défense. Et puis, une fois que cela sera accompli, alors, le parquet près de la Cour pénale internationale plaidera, les avocats des victimes et enfin, bien évidemment, les avocats de M. Gbagbo.
Est-ce qu'il est normal ?
Donc, ce sera quand même plus rapide que
oui, mais quand même, si on dit par exemple que le verdict est attendu pour 2021-2022, est-ce qu'il est normal que l'ancien président reste en détention préventive pendant 10 ans, voire plus ?
Alors, vous avez raison, la question peut se poser, puisqu'il faut effectivement que ce soit des délais raisonnables, et donc il revient à la Cour pénale internationale de juger dans des délais de temps qui ne soient pas anormalement longs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites aussi graves que celle-ci, on peut toujours, et ça ne vaut pas uniquement pour M. Gbagbo, ce que je dis, on peut toujours craindre qu'elle prenne la fuite. Voilà effectivement le dilemme dans lequel se trouve la Cour pénale internationale. C'est donc à elle de prendre la meilleure décision, sachant que ce qui compte à la fin, c'est que M. Gbagbo puisse comparaître devant ses juges le jour venu, physiquement. Voilà.
Donc vous n'êtes pas contre une assignation à résidence?
Je pense que sur ce point, c'est vraiment la Cour qui doit le décider souverainement, mais il ne faut pas non plus qu'une assignation à résidence soit l'occasion de réunir ses partisans, de faire des harangues, de faire des meetings. Donc sur ce point, vous voyez, il y a aussi des préoccupations d'ordre public à prendre en charge. Hein. C'est pas si simple.
Maître Mignard, merci.